Anna Segers me déclara tout à coup. C'est quand même trop bête d'être bloquée ici pour une histoire de visa de transit. Les enfants sont à Pamiers. Rodi va pouvoir quitter le camp du Vernet pour Pamiers. Ne peux-tu pas essayer d'obtenir l'autorisation d'y séjourner quelque temps avec nous ? Puis après quelques instants de silence, elle ajouta « Dans ces périodes troublées, on ne devrait pas se séparer. » Lorsque des années plus tard, Transit me tomba dans les mains, je me souvins du café sur le vieux port et des paroles d'Anna.
Tu parlais de partir bientôt, de la mer, du vent, des bateaux. Mais je suis entrée dans ce bar et j'ai vu changer ton regard. Tu parlais de partir et je voyais tes yeux qui rêvaient de rester en regardant mes yeux. Tu parlais de partir en rêvant de rester. Je t'ai vu hésiter entre partir et rester. Tu parlais de rester toujours, de mes beaux yeux, de notre amour. Tu me serrais contre ton cœur, mais tu avais la tête ailleurs. Tu parlais de rester à tous les matelots et rêver de partir au fond du caboulot. Tu parlais de rester, tu rêvais de partir et je t'ai vu choisir entre rester et partir. Tu parlais de partir demain, de mettre les voiles au matin. Mais tu es enchaînée à mon corps, tu ne quitteras pas le port. Tu parles de partir, tu dis que tu le veux, tu rêves de rester en touchant mes cheveux. Tu parles de partir, rêve de rester, trop tard pour décider entre partir et rester.
Dans le studio, monsieur René Alliot. René, bonjour.
Bonjour.
René Alliot dans le studio pour son dernier film qui est le 12e, qui s'appelle Transit et qui est sorti à Paris. Dans une seule salle, et une salle qu'on aime bien puisque c'est l'Escurial, qui est boulevard du Pont-Royal, et c'est une salle qu'on fréquente et qu'on hante souvent.
Très confortable.
Il y a une très bonne projection et on est très confortablement assis.
Tout à fait.
Et puis l'accueil, excellent.
Ouais. Non, mais ce qui est un peu regrettable, c'est que le film ne soit sorti que dans une salle. C'est bien. Que...
Moi j'ai cru, René, ça sera ma première question, j'ai cru que c'était un peu ce qu'on a voulu faire, et l'embryon qu'on a voulu faire il y a quelques mois à Paris, c'était bloquer un film sur une seule salle. Et
oui,
apparemment c'est faux.
Mais c'est-à-dire que je crois qu'on n'a pas le choix maintenant, il n'y a que deux solutions. Ou bien on a de nombreuses salles qui sortent le film, et c'est un film qui a des parentés avec les films de l'esthétique dominante, et on a des chances de bien le défendre, et on le défend avec beaucoup de salles. Ou bien, il n'entre pas dans cette catégorie-là, et je crois qu'il n'y a plus de demi-mesure comme il y avait encore il y a quelques années. Je crois qu'il vaut mieux le traiter comme une chose à part, et nous avons eu le sentiment qu'on défendrait mieux le film en sortant dans une seule salle, surtout une salle de la qualité de l'Escurial, où l'image est superbe, la projection est superbe, plutôt que de se débrouiller pour avoir deux ou trois salles de plus qui sortiraient le film pour que la sortie marque un peu plus, et puis deux ou trois salles qui ne seraient pas des ferventes du film et puis qui le laisseraient tomber parce qu'on n'atteint pas tout de suite les quotas, et donc on préfère quelqu'un avec qui on a un bon rapport, qui aime le film et qui le défend.
Donc, d'où cette projection de vendredi dernier, où oui. On a eu l'occasion, donc, où tu es venu donc à l'Escurial présenter ton film devant une salle qui était quasi comble et qui apparemment a très apprécié le film. Oui. Nous, il faut dire que nous, on a apprécié le film à sa juste valeur parce que c'est un très beau film. Je ne dis pas ça parce que tu es là dans le studio. Je pense que si tu n'avais pas été là, j'aurais défendu le film parce que.
Tu l'avais déjà défendu. Non, oui.
J'en avais parlé deux mots pour présenter cette émission. Oui. Et moi, je pense que c'est un beau film, c'est un grand film. Et on va donner une espèce d'explication maintenant de nos superlatifs.
Pourquoi, oui. Oui, ben, moi j'ai beaucoup aimé le film de René Alliot parce que j'y ai trouvé une richesse, un foisonnement absolument incroyable et que c'est une richesse du film qui m'a beaucoup plu. Sur un sujet, alors moi j'ai dit que c'était l'antidote absolu à Uranus, film qu'on a absolument, enfin bon moi j'ai exécré pour les raisons qu'on avait évoquées ici. Déjà le point de vue sur la guerre, c'est important de rappeler que beaucoup d'Allemands n'ont pas tous été nazis, ils étaient réfugiés en France. Cette immigration, cette ville de Marseille, il y a vu passer énormément d'immigrés, bon, ceux qui venaient de la guerre d'Espagne pour partir au Mexique, etc., etc. Donc il y a tout ce foisonnement de rencontres et de gens qui sont confrontés à une inertie bureaucratique, qui doivent avoir et le transit et le permis de séjour, viendra là-dessus. Et puis cette ville de Marseille qui est, à mon avis, merveilleusement décrite, et puis la joie de retrouver quand même une conception de l'espace, du décor, qui est cinématographique. Donc on pourra parler de la toile peinte, on pourra parler quand même de la conception du décor. Et un rapport théâtre-cinéma qui, moi, me passionne. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film est construit comme en plusieurs actes, en fait, comme ça, rythmé par la mer, rythmé donc qui font.
Ah oui, ça, d'accord. C'est voilà. La version cinéma, la version courte est comme ça.
Comme ça.
La version télé n'est pas comme ça.
Voilà.
Enfin, on y reviendra.
Alors, avec des espèces de leitmotiv, je parle de la version cinéma. Oui. Et puis, le film se termine d'ailleurs par un rideau qui se ferme. Et donc, c'est un film construit, c'est un film pensé, c'est un film joué, c'est un film. C'est du cinéma. Et ça fait plaisir d'en voir.
Premier flashback, deuxième question donc à René, c'est Transit, l'explication du titre.
Oui. L'explication du titre, Transit, ça veut dire plein de choses. Hein. On en parle à propos de la nourriture, comment la nourriture devient de la merde. On en parle, c'est le changement d'état. On en parle pour son humeur et on en parle aussi parce que c'est le passage d'un état dans un autre. État pour se prendre dans toutes les acceptions du terme, y compris dans le sens politique et géographique. Et donc, pour par exemple aller prendre un bateau à Lisbonne, si vous êtes parti de Marseille, il faut que vous quittiez Marseille. Et à cette époque-là, il vous fallait d'abord une autorisation de sortir de France, délivrée par les autorités. Ensuite, vous allez traverser l'Espagne. Il vous faut donc un visa de transit, parce qu'il faut prouver à ce pays qu'on y rentre, mais qu'on n'a pas l'intention d'y rester. Et alors, le visa de transit sert à ça. C'est parce qu'on a donné toutes les preuves au consulat. Et ensuite, on va à Lisbonne, où on s'embarque. Et là, il faut un visa de transit portugais pour pouvoir monter sur le bateau. Et pour obtenir ces visas de transit de l'Espagne et du Portugal, il faut avoir un visa d'entrée, par exemple au Mexique. Et dans ce cas, il faudra avoir aussi un visa de transit des USA, parce qu'on va traverser les États-Unis pour aller au Mexique. Et ça semblerait aller de soi, après tout, si on a des bonnes raisons, si on peut les prouver, et qu'on a un visa pour le Mexique, par exemple. Mais il se trouve que si on est un rouge, on ne va pas obtenir de visa de transit des États-Unis, et pas d'Espagne non plus. Et il se trouve que si que les consuls, ils vont trier un peu dans tout ce. Et le Mexique, par contre, il a besoin d'un télo parce qu'il est en train de se bâtir et il appelle à lui tous les médecins, les ingénieurs, les écrivains. C'est l'époque où le Mexique. Je me souviens plus si c'est le président Arenas qui avait inauguré cette politique et qui, en tous les cas, a beaucoup aidé ses exilés.
Je commandais un boc. J'aurais bien voulu rester seul. Un vieillard de petite taille s'assit près de moi. Il me demanda presque aussitôt, en regardant ma valise, pour quel pays j'avais un visa. Il ne demandait pas où je voulais aller, non, mais bien pour quel pays j'avais un visa. Je lui répondis que je voulais rester à Marseille. Il s'écria : « Jamais vous n'aurez le droit de rester sans visa !» Je ne compris pas cette exclamation. Je lui demandai par politesse quels étaient ses projets. Il avait été chef d'orchestre à Prague, me dit-il, et maintenant on lui avait assuré un emploi dans un orchestre célèbre, à Caracas. Je lui demandai où ça se trouvait. Il me répondit ironiquement que c'était la capitale du Venezuela. Il avait déjà eu un contrat. Grâce à ce contrat, un visa. Grâce à ce visa, le transit. Mais l'obtention du visa de sortie avait tellement traîné que le transit n'était plus valable. Et à cause du transit, le visa. Et à cause du visa, le contrat. La semaine précédente, on lui avait accordé le visa de sortie. Il attendait maintenant, nuit et jour, la prolongation du contrat, dont dépendait la prolongation du visa, celle-ci étant la condition préalable pour l'obtention du nouveau transit. Je lui demandai ébahi ce que c'était qu'un visa de sortie. Ravi, il me regarda. J'arrivais. J'ignorais tout.
Mais moi, je voudrais dire une chose sur la représentation des Allemands. Moi, j'ai compris en lisant le bouquin d'Anna Segers.
Oui, voilà,
Je l'ai lu en 75. C'est un ami allemand qui est Klaus Elvig, qui est un producteur et distributeur de films, qui m'avait signalé ce livre en me disant, puisque tu es Marseillais, que tu es à Marseille, tu devrais lire Transit. Et j'ai été, boum, j'ai pris le livre en pleine gueule parce que ça me parlait à la fois. C'était tout à coup là. Une représentation subvertie, et puis c'était en même temps toute mon adolescence qui me remontait au visage. Alors, une représentation subvertie, pourquoi ? Parce que, en réalité, depuis 1945 jusqu'à il y a à peine quelques années, ou peut-être même pratiquement jusqu'à aujourd'hui, tout le monde occidental s'est représenté ces années-là, les années de la guerre 40-45, d'une certaine façon, et les rôles étaient distribués, les personnages, les costumes, on savait où était le méchant, où était le héros, on savait quel costume portait le méchant. Alors, il ne s'agit pas de contester que ces méchants-là, ils avaient effectivement ce costume et qu'ils ont été très méchants. Mais enfin, il y en avait, et ils n'étaient pas à cette place-là, ils n'étaient pas dans ce costume-là. Et ceux-là, on ne connaissait pas leur existence jusqu'à pratiquement ces dernières années, et on n'en a jamais parlé, et ils n'ont jamais été représentés. Et faire un film où les rôles étaient inversés, où les gens qui tenaient les camps, c'était ceux qui parlent de la liberté dans les films habituels, et que ceux qui soient poursuivis soient ceux qui tenaient les camps, effectivement, à l'époque, ou dans les films qui rappellent cette période-là, ça posait des problèmes intéressants, ne serait-ce que de relations spectateurs, parce que dans ce cas-là, alors évidemment, si on se pose derrière ça sous le problème de la norme, de la critique, de l'accueil, de la normatisation, par la normalisation, par le public et par la critique. Mais donc c'était ça qui était excitant, qui m'a provoqué d'abord. Et puis au fur et à mesure que je pensais à ce film, j'avançais dans ce film, les pays de l'Est changeaient. À un moment, j'ai pensé que c'était un film qui parlait très bien du passage de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest. Et puis pendant que je tournais le film, le mur de Berlin s'écroulait. Enfin, j'avais déjà cessé de penser à ce passage-là. Mais et je me disais, ce film-là, il va résonner avec la conjoncture internationale, européenne, mais je ne sais pas bien comment, j'attendais avec curiosité. C'est pour ça que j'ai fait cette rencontre avec le public, parce que j'étais un peu choqué aussi par l'accueil de la presse au film. Et je voulais savoir comment le public qui venait de voir le film avait ce qu'il avait senti.
Et alors
Eh bien, j'étais assez content. Enfin, bon, les gens qui viennent pour...
Il faudrait peut-être que ce soit le public qui fasse les critiques et pas les critiques.
Oui, surtout que la critique a perdu le sens critique, très souvent.
Non, mais la critique, elle est là, elle est vraiment là pour gérer les normes. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est évident. Mmh. Et, moi, j'ai lu des articles qui sont manifestement écrits en un quart d'heure. Hein. J'ai l'habitude d'écrire et alors je citerai un papier, il se trouve qu'il est favorable au film, je ne vais pas citer des papiers défavorables au film, qui est dans Télérama, la personne qui a écrit ce scénario, on voit qu'elle a lu, elle a vu le film, et qu'elle a regardé comment il était fait, qu'il a été construit, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il fait, comment il avance, comment sa narrativité fonctionne, bref, elle a fait un travail de critique. Puis j'ai lu aussi d'autres critiques, je ne nommerai pas, qui étaient en effet manifestement écrites en un quart d'heure. c'est-à-dire par des gens qui n'avaient pas vu le film, et les réserves qui avaient la gentillesse de même pas formuler, mais qui restaient en sous-jacente, elles renvoyaient à ce que si on l'avait raconté comme on raconte les histoires d'habitude, et ben, ce serait mieux, quoi.
Ah, d'accord. Avec René Alliot autour de son film Transit. Reviens un peu, René, si tu veux, sur le livre de Segers, Alain Segers, et puis surtout sur ce qui t'a déclenché un peu l'idée de faire le film. Bien sûr, tu nous as exposé un tout petit peu, mais il y a quand même le fait que ça se passe à Marseille, il y a le fait que tu as été lycéen à Marseille, il y a le fait que tu es lycéen pendant l'occupation, il y a le fait que tu es... À la limite, c'est ce que tu disais vendredi lors de ta présentation de ton film, c'est que tu es passé à côté peut-être de ces gens-là. J'aimerais bien que tu reviennes.
Certainement, puisque Anna Segers, dont le mari avait été interné au camp du Vernet, qui était un camp de répression près de Pamiers dans les Pyrénées, le suivait de ville en ville et de camp en camp, et quand ils ont obtenu le visa d'entrée au Mexique, il a été transféré au camp des Milles près d'Aix-en-Provence et Marseille, qui était lui un camp de transit, puisqu'on savait qu'il allait partir. Et transit dans une autre acception encore de terme là. Bon. Et pendant cette période-là où il était au camp des Milles, Anna Segers était à Marseille et elle faisait les démarches dans les consulats pour avoir leur visa de transit, l'autre acception du terme. Ces démarches qui font la matière du film. Bon. Et elle a deux enfants, un garçon et une fille, et chaque fois qu'elle se déplace comme ça dans une ville ou dans une autre, le premier truc qu'elle fait en arrivant quelque part, c'est de les mettre dans une école. Elle avait des principes, donc on voit. Et d'ailleurs, son fils est un scientifique. Et elle avait mis son fils au lycée où j'allais moi. Donc nous sommes allés au même lycée, ce même hiver 40-41, le lycée Thiers. Mais évidemment, je l'ai peut-être côtoyé, peut-être c'était le grand frisé qui a l'air d'arriver d'ailleurs. Je ne l'ai pas reconnu, mais on s'est connus il y a 5 ans, quoi. Un peu plus, parce que quand je suis allé voir Anna Segers, elle m'a appris qu'elle avait un fils qui était de nationalité française, qui vivait à Paris, et qu'il fallait que j'aille le voir. Et donc je suis allé le voir et j'ai continué à garder les rapports avec elle à travers lui. Et c'est lui qui m'a raconté plein de détails sur les hôtels, les choses comme ça, des choses qui ont servi sur la mise en image du film.
Qu'est-ce qui reste du livre par rapport au scénario de...
Je crois que le scénario est assez fidèle. La partie sur les Allemands et sur le personnage principal, Gerhard, est tout à fait fidèle. Je crois que c'est l'esprit du livre. J'ai peut-être un peu accentué. Pour moi, la morale... Enfin, si tant est qu'il y a une morale, mais enfin, si tu veux... Il y a cette histoire que Weidel, il ne fait pas la guerre, mais il fait un certain travail. qui a autant de sens. Il s'est battu, il se bat pour une autre chose, et c'est une chose importante de se battre pour ça. Il se bat pour écrire bien. Mm-hmm. Et il se bat comme Stevenson, comme dit Stevenson, pour que, dans ses écrits, pour que, c'est ce qui fait, ce qui a fait prendre, c'est ce qui a fait prendre Stevenson pour un auteur de mettre ses livres dans la bibliothèque des enfants, pour que ses histoires soient aussi captivantes pour un enfant que pour un adulte. Et c'est, les derniers commentaires,
Stevenson, c'est l'un de mes auteurs favoris. Je suis toujours en train de conseiller de lire L'île au trésor.
Oui, absolument.
Parce que c'est l'un des grands livres de l'humanité.
Je suis bien tout à fait d'accord avec ça. Et pour moi, ça m'a touché en plein cœur, cette prise de conscience que l'important c'était comment raconter ce qu'on raconte, plus que le fameux contenu, l'idéologie qu'on a si longtemps cherché à faire des films, dans ce qui devait apparaître d'abord, c'était ça. Et bien non, dans un objet d'art, ce qui doit apparaître d'abord, c'est son accomplissement dans l'art en question. Et donc c'est intéressant de parler de ça. Bon, alors donc, moi j'ai fait de Weidel un type, mais c'était dans le bouquin, cela dit, hein, qu'il s'est battu pour plus que ça, il s'est battu pour que chaque mot, chaque phrase compte de sa langue. Et quand Gerhardt lit pour la première fois le manuscrit, il dit qu'il retrouve sa langue, c'était pas, elle coulait en moi comme du lait, c'était sa langue maternelle, et c'est pas la langue des nazis, c'est pas la langue qui crachait, qui craquait, c'était sa langue, c'était du lait, quoi. Bon.
Par excès d'ennui, je me mis à lire, et je lus encore. C'est peut-être parce que je n'avais jamais lu un livre jusqu'au bout. J'étais captivée. Non, ça ne peut tout de même pas avoir été le vrai motif. Popol avait bien raison, je n'y entends rien. Ce n'est pas mon rayon. Mais j'en suis persuadée, l'homme qui a écrit ça, il connaissait son métier. J'en oubliais mon cafard, j'en oubliais mon ennui mortel. Et si j'avais eu de mortelles blessures, je les aurais oubliées, elles aussi, en lisant. Tandis que je lisais, ligne par ligne, je sentais aussi que c'était là ma langue maternelle, et elle me pénétrait comme le lait pénètre le nourrisson. Elle ne claquait pas, elle ne grinçait pas, comme cette langue qui sortait du gosier des nazis en commandements assassins, en répugnantes protestations d'obéissance, en ignobles vantardises. Elle était sérieuse et calme. Il me semblait que j'étais à nouveau seule avec les miens. Je rencontrais des mots qu'avait employés ma pauvre mère pour m'apaiser quand j'étais en rage, des mots dont elle s'était servie pour me gronder, quand j'avais menti, quand je m'étais battue. Je rencontrais aussi des mots que j'avais employés moi-même, mais oubliés depuis, car je n'avais plus jamais trouvé dans ma vie ce qui m'avait fait dire ces mots-là. Il y avait aussi des mots nouveaux que j'emploie parfois depuis lors.
Alors ce truc sur la langue, moi je trouve ça très beau, et j'ai eu très envie de faire entendre les langues par le bruit qu'elles font. Comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-titres. Alors il y a des répliques qu'on comprend bien en français, mais elles sont toutes parlées avec des accents étrangers. Et puis on entend de temps en temps des bribes d'espagnol, des bribes de conversation en espagnol et en allemand principalement. Et c'est pas sous-titré. Et je trouvais que c'est important que le français... Là, par exemple, on reçoit le sens des phrases, mais que ce ne soit pas la manière dont il est écrit, en fait, en vérité, il est écrit, qui compte, mais le bruit qu'elle faisait. Alors, j'ai encore dévié, là. Non, tu me disais, Marseille, si j'avais vu ces gens. Non, je ne savais pas. Comme beaucoup de Marseillais, enfin, il y avait sans doute des Marseillais qui le savaient, les gens. Mais il ne faut pas oublier qu'en 40-41, il n'y avait pas eu les prises de conscience qui sont arrivées plus tard, surtout à partir du moment où les Allemands ont occupé la ligne occupée, où on a eu les Allemands sous le nez, il s'est passé d'autres choses. Là, ces choses-là, ce n'était pas encore passé. Au moment où Anna Seghers s'écrivait cette histoire, au moment où elle se passe, n'oubliez pas que Staline est encore en lien avec Hitler.
Hein? D'accord, on est encore sous le coup du...
Oui, il vient de se partager germano-soviétique.
Il vient de se partager les Pays-Baltes. Mmh. C'est là que Staline fait des Pays-Baltes et des républiques soviétiques.
Un joli cadeau empoisonné, mais un cadeau.
Et c'est le moment aussi où Staline profite de la situation pour nettoyer
une fois de plus
les rangs du parti, l'appareil du parti de ceux qui ont fait la guerre en Espagne. Enfin, des trotskistes, je ne sais pas, mais je ne connais pas par détail cette histoire-là. Mais enfin, on sait bien que c'est un moment où il y a des Allemands qui sont en fuite, des communistes en réalité, clandestins qui sont éliminés.
Thank you.
dois vous avouer que je n'aurais pu imaginer une réaction si violente que celle qui fut la vôtre lorsque je vous ai montré Retour à Marseille. Les mots que vous avez prononcés alors, les jugements que vous avez portés, m'ont surpris et blessé. Mais je les ai portés au compte de votre personnalité et surtout de votre attachement à Marseille. Marseille que je n'ai pas pour autant le sentiment d'avoir rabaissé. J'ai fait voir d'elle, au contraire, un espace et des lieux, à moitié urbains et à moitié ruraux, que l'on ne montre jamais, que je lui connais bien puisque j'en viens, et dans lesquels je trouve que s'exprime le mieux sa formidable et si humaine vitalité. Peu de villes ayant manifesté à ce point, et pendant plus de 2 millénaires, une telle capacité de se changer et de demeurer en même temps aussi fidèles à elles-mêmes. Je trouvais juste que le personnage qui porte sur les faits racontés le regard le plus fraternel, riche d'assez d'amour et de sagesse pour comprendre les jeunes et les moins jeunes, qui peut évoquer ses propres fautes et ses propres conflits vécus et surmontés, que ce personnage soit un Marseillais. Qu'il ait derrière lui une vie de travail liée à la vie de sa ville, qu'il soit fait du tissu de sa grande et de sa petite histoire, qu'il incarne ses sociabilités anciennes, une façon d'être, une parole, une générosité qui lui sont propres, qu'elles soient vivantes en lui. En écrivant et en tournant ce film, je me sentais moi-même adossée à cela, comme quelqu'un de Marseillais, et même, comme le montre, je crois, le texte de l'heure exquise que je vous ai fait remettre, qui parle du passé des miens, comme quelqu'un de profondément marseillais.
Marseille, dans ta filmographie, c'est quelque chose de très important. Oui. C'est quasiment la ville où tu as pratiquement fait tous tes films.
Non, pas tous mes films, j'ai fait que 3 ou 4 films.
Oh, bah quand même, il y a quand même Retour à Marseille, Oui,
oui.
Transit à Marseille.
Oui.
Matelot 512, j'ai pas vu.
Oui,
c'est un port, on peut imaginer que c'est Marseille.
C'est
mais bon, oui, Marseille,
c'est
Toulon,
c'est la mer.
Il fallait être citationnel dans Matelot 512 du rêve du port militaire du petit peuple. Hein, c'est un roman de gare, Matelot 512.
Et pourquoi cet attachement à Marseille? Alors, c'est vraiment
alors, Marseille, c'est la ville de mon enfance. Et c'est quelque chose. Moi, j'ai quitté Marseille pour fuir Marseille, qui me faisait chier. Là, j'avais honte de mon accent marseillais. Les Marseillais m'emmerdaient. Je l'ai trouvé épouvantable. C'était pas moyen d'être artiste là-bas. C'était une ville très bourgeoise, très commerçante, où les gens qui avaient les moyens allaient se cultiver à Paris, allaient voir les spectacles à Paris. Et nous, on faisait du théâtre à Marseille, devant des salles vides. On crevait la faim. Et donc, à un moment, j'ai dit merde, et je suis monté à Paris. Et à Paris, bon, ben, j'ai plus trop travaillé. Il y a des théâtres, il y a des jeunes troupes, il y a une activité créatrice vivante. C'est plus le cas à Marseille aujourd'hui, où maintenant il y a plusieurs théâtres, il y a une vie artistique. Elle sait, la décentralisation a vraiment fonctionné. Mais moi, j'étais parmi ces hommes qui ont commencé la décentralisation.
Tu as commencé la décentralisation en montant à Paris.
Je suis monté à Paris, mais de Paris, je suis reparti pour travailler pour des centres dramatiques, pour Virginie ou à Rennes, ou pour Saint-Denis à Strasbourg, et puis après pour...
Quand on prend
la Courneuve aussi.
Un petit peu ton parcours, on te retrouve un peu partout, on te retrouve en Angleterre, on te retrouve en France partout, comme tu viens
pour
de
le
dire.
Théâtre,
pour le théâtre. Pour le théâtre, on te retrouve en Allemagne.
C'est le théâtre, parce que c'est-à-dire que... Bon, le théâtre, on en fait beaucoup en Europe quand même. Hein. On en a fait en France de plus en plus, c'est de plus en plus créé de troupes. Et il se montait des spectacles. Et lorsque on devenait un artiste connu, ce qui était mon cas comme décorateur, bon, à partir de là, tu pouvais faire des décors pour un spectacle de Planchon. J'ai fait les décors et les costumes des spectacles de Planchon pendant 7 ou 8 ans. Hein. Et bon, à ce moment-là, le Théâtre National de Londres peut te demander, parce que il a vu tes décors dans des théâtres, donc on se met à circuler comme ça.
Mmh. C'est l'errance, quoi.
Oui,
mais c'est l'errance. Aussi, mais l'avenue au cinéma, alors pourquoi? Comment?
L'avenue au cinéma, mais pour résumer mon parcours, moi, mon travail de théâtre me passionnait, mais m'intéressait beaucoup, mais je le faisais avec mes facilités et mes dons. Mm-hmm. Et c'était le travail avec alimentaire avec lequel je suis mentionné mon activité de créateur, qui était la peindre, le peindre. Mm-hmm. Le peintre. J'entretenais le peintre avec mon travail de décorateur. Mm-hmm. Et puis, il y a eu une rencontre quand même avec le Berliner Ensemble de Brecht. Et tout à coup, j'ai vu sur la scène des choses d'un achèvement prodigieux qui m'ont absolument époustouflé. On ne peut plus se rendre compte de ça maintenant, parce que cette ambition de faire des belles choses sur la scène, elle s'est répandue, elle a fait des petits, et chaque petit a fait des petits, et maintenant on fait beaucoup de beaux décors très réussis, des lumières très chiadées, puis les moyens sont perfectionnés, puis les théâtres se sont équipés. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, et tout à coup passer du genre de décor qu'on voyait d'habitude dans toile peinte, avec des architectures trompe-l'œil, un jeu avec le décor-décor, qui ne s'avouait pas parce qu'il ne savait pas bien où il allait, et que tout à coup on voyait un spectacle comme le cercle gréco-caucasien, au meilleur courage, ou la crèche cassée, ou Arthur Auhuy, qui sont les spectacles que j'ai vus, ou le cercle gréco-caucasien, qui sont les spectacles que j'ai vus du Berliner. On est absolument sur le QT. Alors, mais ce qu'il y avait aussi là-dedans, c'était aussi que ça parlait de politique. Alors, j'ai fait, moi, mon apprentissage politique très tardivement. Enfin, en gros, j'étais un homme d'origine populaire, mais ma famille marseillaise, justement, mes grands-pères étaient des émigrés. Mon grand-père maternel était un paysan venu à la ville, passé dans les bureaux. Et encore même pas sur le pays, il était maître portefeuille sur le port de Marseille, c'est-à-dire qu'il engageait les gens, les dockers pour décharger tel bateau ou tel autre. C'est lui qui faisait le recrutement. Et mon grand-père paternel, lui, c'est un travailleur immigré classique. Il est venu du Piémont, passant les Pyrénées, les Pyrénées, les Alpes.
Il aurait fallu qu'il prenne un transit pour passer en Espagne.
Non, mais le grand-père provençal, dans tous les cas, il a eu un ancêtre qui a traversé les Pyrénées, puis il s'appelait le Galicien, c'est-à-dire le Galicien. Galicien, qui est un mot assez provençal, parce qu'il y a eu beaucoup, à une époque, et je ne sais plus dans quel siècle, il y a eu énormément de types d'émigration de la Galicie. Bon. Et donc, il venait du Piémont, il était venu à pied en traversant les Alpes, et à Marseille, il a fait ce que font les émigrés quand ils arrivent, il a fait des gros boulots, il a été maçon, il a fait creuser des trous, il a travaillé sur les voies. Alors, il y avait aussi que quand je voyais donc j'avais un contact du côté de mes racines vers ce monde du travail, hein, que j'avais quitté pour être artiste. Hein. Et moi, je suis devenu artiste en lisant les lettres de Van Gogh, en lisant Cocteau, en lisant Gide, en lisant Valéry. C'est pas en lisant Zola ni Marx. Alors, Marx, moi, je l'ai appris à travers Brecht. J'étais plus brechtiste que marxiste, et plus brechtisant que marxisant.
Le côté un peu artiste de Brecht, plutôt que le côté politique.
Non, mais cela dit, ce côté politique m'intéressait, et je cherchais à m'y engager. Et tout à coup, et c'était le moment où, comme peintre, j'ai fait un parcours tout autre. J'ai fait un parcours qui épurait mon écriture, plutôt dans une voie expressionniste, qui m'avait conduit petit à petit à travers les Lavilles et les dessins de Rembrandt vers la peinture chinoise et la peinture zen. Mmh. Et donc j'en étais à un moment où je faisais une peinture gestuelle, figurative, mais il fallait qu'on le sache, c'est le titre du tableau qui permettait de le décrypter, et j'étais en train de réussir, comme on dit, comme peintre. Et tout à coup, il faut dire aussi le contexte de tout ça, c'était la guerre d'Algérie aussi.
Oui, bien sûr.
Alors, donc tout à coup, je me trouvais un petit bourgeois de faire de la peinture belle, comme ça, de faire des belles choses. Hein. Là, j'ai acheté le discours... Le discours idéologique content, là. Et tout à coup, je me suis dit je voulais pratiquer un art qui dise. Et comment dire? Alors, j'ai cherché à faire dire à ma peinture. Et pour dire, faut introduire la durée. Si on veut communiquer un sentiment, un truc, ça peut pas être simplement une toile. Oui, ça peut être une toile, mais là, une toile, on la contemple. Ça appelle la contemplation, ça appelle pas le mouvement. Alors je me suis mis à peindre des peintures en longueur qu'on parcourait un peu en parcourant la galerie où j'avais exposé. Et puis j'ai pensé à faire des... À filmer une toile qui évoluerait. On filmerait son évolution, elle bougerait et elle dirait quelque chose, bon.
Et l'acte de peindre, quoi.
Et c'est de là que j'ai commencé à penser à la caméra. Mmh. Et Et à ce moment-là, il s'est trouvé qu'on a monté à Villeurbanne, adapté par Adamov, Les âmes mortes de Gogol. Alors il y avait 15 tableaux qui se passaient un peu partout en Russie. Tchitchikov, le héros principal, fait une tournée comme ça.
Tchitchikov.
Oui. Oh, c'est une histoire magnifique.
Oui, Les âmes mortes, c'est superbe.
Très grand roman.
Très grand roman.
Et donc j'avais fait 15 petits films de dessins animés d'animation très frustes avec des mouvements gauche-droite ou bien des zooms avant, zooms arrière ou des plans fixes et des plans larges. Et j'avais fait dessiner 400 ou 500 dessins que j'ai filmés. J'ai fait 15 petits films de 2 minutes, une demi-heure de film quand même, et ils sont, qui étaient à la Cinémathèque de Toulouse en 16 mm. Et la caméra, c'était excitant. Et puis là-dessus, Alain René, qui préparait une adaptation de Harry Dixon.
Il l'impôt part toujours, d'ailleurs, non?
Je ne sais pas, c'est un magnifique scénario.
Ouais, non, mais c'est une histoire de serpent.
Me propose de faire les décors. Et alors, je rencontre un discute de contrat avec le producteur, et je dis, moi, que j'accepterai volontiers s'il s'engage à me produire un court-métrage. Et donc je commence à penser à ça, par un RN, je le contacte le monde de la production. Et puis là-dessus,